Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Dans Flashback cette semaine, nous recevons Michel Pascal pour son livre « Histoire secrète du cinéma français ». Dans cet ouvrage passionnant, le journaliste nous plonge sur plusieurs décennies dans les arcanes souvent rocambolesques du 7e art hexagonal. Au début des années 70, une nouvelle génération de producteurs, distributeurs, financiers, agents et comédiens prend les rênes du cinéma français. Ils s'appellent Bertrand Blier, Claude Berry, Jean-Pierre Assam, Gérard Depardieu, Daniel Toscan-Duplantier, Gérard Lebovici. Certains sont connus du grand public, d'autres ont préféré rester dans l'ombre. Ils ont tous, à leur manière, bouleversé le paysage du cinéma hexagonal. Dans son livre « Histoire secrète du cinéma français » publié aux éditions Robert Laffont, le journaliste Michel Pascal retrace cette passionnante épopée cinématographique qui s'étale sur plus de 30 années, émaillée de trahison, de génie, de coups fourrés, d'audace et d'excès. Michel Pascal, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Alors, vous êtes journaliste, critique et chroniqueur de cinéma. Vous avez aussi réalisé des documentaires sur François Truffaut et Michel Deville, également signé un ouvrage consacré à Claude Chabrol. Alors, sur ce livre, Histoire secrète du cinéma français, vous avez passé 3 années à recueillir les confidences des personnalités majeures de la profession. Se sont-ils confiés facilement ?
Oui, assez facilement. D'abord parce que je les connais tous depuis un certain temps et que donc ça faisait partie du pari que j'avais fait en imaginant la construction de ce livre il y a quelques années. C'était de pouvoir avoir accès au bureau secret des grands patrons, ceux qui sont toujours vivants bien sûr, pour leur faire raconter ces souvenirs. D'ailleurs, c'est parce qu'une partie d'entre eux atteignent un certain âge que je me suis dit qu'il était urgent de déclencher ce travail pour recueillir des témoignages qui après risquerait de disparaître purement et simplement.
Surtout qu'il y en a quand même pas mal qui sont morts jeunes dans votre aventure.
Il y en a quelques-uns qui meurent malheureusement prématurément, effectivement.
Alors, nous allons y revenir sur toutes ces figures très importantes de votre livre. Alors, celle qui vient tout de suite à l'esprit, là, sans doute la plus incontournable et celle que les gens connaissent sans doute le mieux, c'est bien sûr Daniel Toscan-Duplantier. Alors, vous revenez notamment sur la période où il était directeur général adjoint de la Gaumont, c'est le titre, je crois,
oui,
exact. Qui était en fait une sorte de directeur artistique entre 75 et 84, une décennie où il va quand même soutenir pêle-mêle, rappelons-le, Rosie, Piala, Vajda, Bergman, Fellini, Tarkovsky, produit par la Gaumont. Ça semble un peu de la science-fiction aujourd'hui, mais c'est pourtant la réalité de l'époque. Toscan disait qu'il voulait en faire le Gallimard du cinéma. Il y était arrivé.
Oui, absolument. Il était arrivé à produire 40 ou 50 titres qui ont enrichi, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, le patrimoine des films Gaumont. Mais il l'a fait, mais ce n'est pas uniquement de sa faute, il l'a fait aussi en vidant les caisses de la société. Et il l'a fait grâce à un chéquier, un puissant fonds, qui était le chéquier de Nicolas Sédoux, d'un milliardaire protestant qui est allé chercher Toscan parce que c'était son ami de jeunesse à Sciences Po et qui en a fait son bras droit, ce qui n'était pas prévu au départ puisque c'était un autre personnage qui devait être nommé, qui était Jean-Pierre Rassam, qui lui avait réussi la conquête de la Gaumont. Mais Toscan va effectivement faire ce qu'il a appelé le salon des films refusés, comme on l'a dit pour la peinture impressionniste quelques siècles plus tôt. Et donc il a été chercher tous les talents européens qui n'arrivaient plus à tourner. Et c'est grâce à Daniel que des films de Fellini, des films de Bergman ou un film de Kurosawa qui n'est pas en Europe, mais qui va se faire sans lui d'ailleurs, parce qu'il sera parti, mais qui va quand même se monter, Ran, C'est grâce à Daniel que tous ces films se sont faits. Et l'une des plus belles pages de pub que Daniel et Toscan aient pu faire, c'était justement une pleine page du Monde dans laquelle il y avait la photo de Fellini, de Bergman et de Kurosawa. Et puis en dessous, il y avait 35 titres de films qui sont les fleurons. Et quand on parle de ça aujourd'hui à Nicolas Sédoux, il en a encore la larme à l'œil. Mais il sait très bien qu'il a dû quand même sacrifier Toscan à un moment sur l'autel de l'argent.
Certains disaient même que c'était un deuxième ministre de la Culture. Est-ce vrai?
Oui, parce qu'il parlait tout le temps et partout et brillamment. Dès qu'il a accédé à ce poste de directeur général de la Gaumont, on n'a plus vu que lui dans les médias. Et donc la parole de Daniel, sa moustache conquérante, son air gourmand, son œil brillant était partout. Et c'est vrai qu'il est devenu d'ailleurs très ami à partir de 81 avec le vrai ministre de la Culture qui a été Jack Lang. Ils sont devenus inséparables tous les deux. Et en fait, je m'aperçois avec le recul qu'ils poursuivaient le même but. Ils avaient avant d'être élu ministre de Mitterrand, avant d'être nommé, Jack Lang avait déjà posé les bases d'un cinéma, d'une culture européenne. Ça sera la même culture que Toscan défendra. Et un troisième homme, et donc c'était une espèce de trio qui a fonctionné ensemble pendant ces 10 années, lui projetait ses films à Cannes, c'est Gilles Jacob. Donc là, on voit se dessiner un parcours où il y a d'un côté Toscan, Jack Lang, ministre de la Culture, Gilles Jacob à Cannes, qui vont contribuer tous les trois, chacun à leur façon, à façonner un cinéma qui était voué à disparaître purement et simplement. Ces cinéastes ont arrêté de travailler une fois que Daniel a été parti.
D'ailleurs, dans votre livre, on a un peu l'impression qu'on assiste à la fois à une période prodigieuse et qui porte en elle-même le germe de sa propre fin. C'est-à-dire que contrairement peut-être aux États-Unis, par exemple, où on va voir apparaître une race d'industriels poètes type Spielberg, Lucas, Coppola, qui vont créer un modèle industriel qui est extrêmement résilient et extrêmement puissant. Là, on a l'impression qu'on a en fait une espèce d'alliance entre des poètes déjantés à la Rassam, des industriels protestants à la Sédoux, qui de toute façon, à la fin, détiennent les clés du coffre et remporteront la victoire. Et puis finalement, Toscan du Plantier, qui est un peu une espèce d'hybride entre les deux et qui arrive à faire tourner le système. Et le jour où cet hybride n'est plus là, il n'y a plus de système.
Oui, et le jour où on lui retire, il le dit, d'ailleurs, le jour où il est licencié un matin à 9h du matin en février 85, il dit le jour où Nicolas Sédoux lui retire le chéquier, il n'est plus rien, il n'a plus aucun pouvoir, il ne peut plus faire aucun film. Il va continuer comme producteur indépendant pendant quelques années après, avant de devenir patron d'Unifrance. Il va monter sa société qui va s'appeler Erato Film Production, où il va quand même produire Piala et gagner une palme d'or à Cannes avec Sous le soleil de Satan, ce qui n'est pas rien. Donc il va et faire un autre film sublime de Piala qui est Van Gogh. Donc il va continuer, mais il a beaucoup plus de mal, ça nécessite beaucoup plus d'efforts. Alors que là, Toscan, à 9h du matin, il demandait un chèque à Nicolas Sédoux, qui parfois ne répondait pas tout de suite. Il retournait à 19h le soir, et devant un whisky, il repartait avec l'argent pour faire le film. Mais je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas Toscan tout seul qui a vidé les caisses de la Gaumont, et ce ne sont pas ses films. Il y a eu d'autres conquêtes, notamment à l'international, d'autres frais faramineux, et notamment la Gaumont Italie, qui ont été des gouffres énormes, et qui ont contribués, qui se sont ajoutés aux folies toscaniennes, certes, ouais, mais qui n'étaient pas à elles seules responsables du désastre de la Gaumont. Et ça, il faut le dire.
Tout ça, sachant que cette histoire-là de la Gaumont, c'était déjà basé sur une période de la Gaumont qui était une mauvaise période,
ah oui,
avec un directeur financier qui avait des amitiés crapuleuses.
C'est d'où Toscan ne serait jamais arrivé à la Gaumont en 1974 si la Gaumont n'avait pas été en train de s'écrouler sur deux ou trois fronts importants. On venait de vendre le Gaumont Palace pour faire des liquidités, alors que jamais...
Scandale, hein, d'ailleurs, le Gaumont Palace qui est devenu un hôtel abominable qui a défiguré la place Clichy alors que c'était un des plus beaux endroits d'Europe.
Sacrifier cette salle est absolument criminel. Il y avait un directeur financier qui s'appelait Jean Robotier qui lui a été pris la main dans le sac d'un scandale financier immobilier qui était le patrimoine foncier et qui préférait revendre les salles de la Gaumont pour se faire de l'argent personnel plutôt que de savoir quelle stratégie adopter vis-à-vis des films. Et puis il y a eu Alain Poiré qui a eu 1, 2, 3 échecs de suite au mauvais moment. Il n'a eu que des succès par la suite et avant. Mais là, il a eu 2-3 échecs. Donc, à un certain moment, la Gaumont devenait une fiancée pas propre. Il fallait lui donner un nouvel allié. Et c'est là où la famille a été chercher Nicolas Sédoux et Toscan, qui est devenu le bras droit de Nicolas.
Nicolas Sédoux, justement, et la famille Sédoux, qui est omniprésente dans votre livre. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, Nicolas Sédoux est président de Gaumont, Jérôme Sédoux de Pathé. Ce sont les deux hommes, sans doute deux des hommes les plus puissants du cinéma français. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette famille que rien ne prédestinait au départ à prendre les rênes du cinéma français?
Bah, vous savez, dans tous ces personnages, ils tombent tous dans le cinéma un peu par hasard. Je pense que Nicolas Sédoux aurait pu être diplomate. Il y a des diplomates dans la famille et lui, il aimait bien le verbe et les très beaux discours pour parler du patrimoine de cinéma. C'est ce qu'il savait sans doute le mieux faire. Jérôme Sédoux, lui, c'est l'homme d'affaires de la famille. Donc c'est lui qui, sur la longueur, va finir par coiffer son frère sur le poteau parce que chez Pathé, il va beaucoup mieux gérer Pathé que Gaumont. Et là, il vient de racheter seulement l'année dernière toutes les salles de cinéma Gaumont en France. Il n'y a plus de salles Gaumont, il n'y a que des salles Pathé. Et c'est Jérôme qui a réussi. Et un troisième frère cadet qui est Michel Sédoux, qui lui va produire quelques chefs-d'œuvre, mais qui est beaucoup plus, qui lui ne cherche pas le pouvoir comme ses frères. Et ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une rivalité très protestante entre Nicolas et Jérôme. Nicolas Sédoux a plutôt empêché Jérôme de rejoindre le cinéma un jour. Jérôme Sédoux a failli être patron de la Gaumont à la place de Nicolas Sédoux au tout début. Et puis, en fait, il est arrivé par la bande. Il a racheté Pathé en 90 à un truand italien qui s'appelait Giancarlo Paretti. Et puis après, il a créé les multiplex. Et puis après, il a fait de Pathé une société qui... Et Toscan, lui, il était prédestiné pour être un publicitaire brillant chez Bleustein Blanchet. Et si son copain de Sciences Po, Nicolas n'avait pas été le chercher par la main en 74, il n'aurait jamais été dans le cinéma, il aurait plutôt été dans la musique ou dans l'opéra.
Et puis alors, il y a un passage dans votre livre qui est assez étonnant, assez mélancolique aussi, qui est celui qui raconte finalement la période de la mort simultanée, quasi simultanée de Gérard Lebovici et de François Truffaut, et qui donne l'impression, là aussi, de la fin d'une façon de faire du cinéma qui était d'une certaine manière celle de la Nouvelle Vague, et qui pourtant était un peu condamnée parce qu'elle reposait sur le secret, sur quelque chose de très différent quand même des pratiques modernes du monde à la fois des affaires et du cinéma, quoi.
C'était des parrains qui travaillaient entre eux, alors parrains entre guillemets bien sûr, hein, mais François Truffaut et Gérard Lebovici fonctionnaient de la même façon. C'était deux hommes qui étaient extrêmement cloisonnés, qui avaient des vies qui étaient très séparées les unes des autres, la vie amoureuse de Truffaut et la vie professionnelle, tout le monde le sait aujourd'hui. Gérard Lebovici, lui, il y avait...
Il était producteur.
Gérard Lebovici est le plus grand agent d'Europe. Gérard Lebovici fonde, à la fin des années 60, début des années 70, l'agence Armedia, qui va devenir la plus grosse agence d'artistes d'Europe. Et presque du monde, les Américains ont essayé de le racheter plusieurs fois, mais il n'a jamais voulu céder ses parts. Donc d'un côté, on a Armedia pour Gérard Lebovici, qui en 69 va d'un seul coup devenir éditeur, après mai 68. Il va fonder les éditions Champs Libres, et donc il passe de la rive droite à la rive gauche. Et sur la rive gauche, il rencontre des gens comme Guy Debord, le situationniste, le pape du situationnisme, et qui va devenir un ami intime. Un peu désastreux pour Lebovici parce qu'il aura sur lui peut-être une influence pas toujours positive.
Il va produire le film de Debord.
Absolument. Mais là il y a eu une amitié entre Lebovici et Guy Debord parce que quand les deux hommes se voyaient, Lebovici laissait l'agence Armedia pendant plusieurs jours d'affilée. On savait pas où il était et on savait qu'il était quelque part en France avec Guy Debord et que personne ne pouvait les retrouver. Et il revenait après. C'est pour ça que le jour où il a été assassiné, on a cru qu'il était avec Guy Debord. En fait, non, pas du tout. Il était dans un parking de l'avenue Foch où il avait pris 4 balles dans la nuque, et ça n'avait sans doute absolument rien à voir avec Guy Debord, bien sûr, mais c'est une exécution mafieuse sur laquelle il y a 2 ou 3 pistes plausibles. Mais en tous les cas, ces personnages-là, effectivement, ils travaillaient, et sur les Champs-Élysées, quand ils disparaissent en 84 tous les deux, ils sont à quelques rues l'un de l'autre, Truffaut est vers la rue Marbeuf, Lebovici est sur l'avenue Georges V, d'un seul coup, il y a un pan entier du cinéma, parce que tous les films français, dans les années 70-80, surtout les années 70, passent par le bureau de Gérard Lebovici. Tout ce qu'on vous voyait, tous les Chabrol, tous ces films-là, tous les sautés, tous ces films sont fabriqués au sein de l'agence Armedia parce que non seulement il est l'agent des acteurs, mais il est l'agent des metteurs en scène, l'agent des scénaristes et même de certains techniciens. Donc c'est un pouvoir énorme. Quant à François Truffaut, c'était une façon de faire des films, les films du Carrosse, sa société de production, qui va inspirer à Gérard Lebovici la forme de création. Il va donner la même forme à Armedia que celle que Truffaut avait construite dans ses petits bureaux de la rue Robert-Estienne dans le 8e arrondissement. Et c'était deux amis qui ne se quittaient jamais. Ils avaient un point commun, ils avaient tous les deux un grand amour des femmes.
Il y a un autre personnage très important qui disparaît à ce moment-là, c'est Jean-Pierre Assam. Et là, c'est la partie, on va dire, la plus extravagante de votre livre, par la personnalité même de Assam, qui était un aventurier du cinéma, qui a produit La Grande Bouffe, mais aussi des Polanski, des Godard. Et à propos de Godard, il y a une citation dans votre livre que j'aime beaucoup, qui résume malheureusement la destinée de Jean-Pierre Assam. Il dit « Jean-Pierre Assam, il a d'abord eu tous les Champs-Élysées, puis un immeuble, puis un étage, puis un appartement, et finalement à peine une chambre de bonne ». Voilà, c'est la destinée d'un homme qui s'est brûlé les ailes, extravagant, dans une époque qui semble un peu révolue dans ses excès en tout genre, que vous racontez assez bien dans le livre, mais un aventurier comme celui-là, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui.
Il appartient à une race de personnages très rares, dans laquelle on pourrait mettre des producteurs comme Raoul Lévy, par exemple. Donc Gérard Lebovici, Rassam, Raoul Lévy, c'est des hommes qui fonctionnent de la même façon et qui tous les trois, d'ailleurs, meurent de mort violente, ce qui est un peu un hasard. Rassam est le fils de bourgeois libanais, arrivé en France dans les années 60, et qui va donc croiser. Pourquoi lui, il va tomber dans le cinéma? Parce qu'il croise la route de Nicolas Sédoux et Daniel Toscan du Plantier dans la même promotion de Sciences Po. À partir de là, ils deviennent très amis, surtout Toscan et Sédoux, mais quand même Rassam qui est là derrière, toujours en permanence. Et comme Rassam, à l'époque, est quand même. Il a de l'argent. Il est quand même. Il a de l'argent de sa famille, mais pas autant que les milliardaires Sédoux, Schlumberger. Mais donc, ils vont devenir inséparables. Et c'est comme ça que Rassam va mener cette affaire extravagante, le coup du siècle, j'appelle dans le livre, parce que c'est piquer la Gaumont à ses propriétaires qui étaient les Schlumberger à l'époque et qui ont voulu s'en débarrasser pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que la maison était en train de flancher, elle allait un peu mal, parce qu'à l'époque on n'était pas encore, avec ce qui va se passer dans les années 80, les droits télé n'avaient pas encore été reconnus à leur juste valeur. Si la Gaumont avait expertisé son catalogue de films en 1974, elle n'aurait jamais été mise en vente, il y avait largement de quoi combler toutes les pertes, y compris les pertes immobilières. Donc, mais comme c'est 10 ans trop tôt, ça ne se produit pas comme ça. Et là, les banquiers et Jean Ribou, qui tiennent la société Schlumberger, qui tiennent la Gaumont de l'époque, qui tiennent 40% de la Gaumont de l'époque, disent on va s'en débarrasser. Jean-Pierre Rassam va s'occuper de racheter ces 40%, plus les 11% qui étaient entre les mains de Charlie Bluedorn et de la Paramount, ça va faire 51%, et grâce à ça, ça tombe dans les mains de Nicolas Sédoux, qui n'y croyait pas, parce que lui-même, il a été mis en lice très, très, très tard sur ce dossier, qui est assez extraordinaire. Et qui se produit à un moment où toutes les autres sociétés changent autour. UGC aussi est en train de changer de profil. AMLF est en train de naître. Armédia vient de démarrer quelques années plus tôt. Donc tous les centres de gravité du cinéma français bougent à ce moment-là. D'une certaine façon dans les années 70 et d'une autre dans les années 80, où la politique et la télévision vont jouer un rôle majeur.
Oui, vous le racontez très bien. Au début des années 80, l'arrivée de la gauche au pouvoir, Jack Lang qui impose un petit peu de nouvelles règles. L'arrivée aussi des chaînes privées à la fin des années 80, la création de la 5.
84, Canal Plus.
Canal Plus dès 84 qui va quand même chambouler la manière de produire, enfin en tout cas au moins de financer des films. Est-ce que ça rejaillit sur les films eux-mêmes?
Pas tout de suite. Je pense que l'élan des années 70 perdure sur les années 80 et qu'on a encore un formidable cinéma d'auteur qui voit le jour tout au long des années 80 comme il a vu le jour dans les années 70. Bon, j'ai mis Les Valseuses en exemple parce que Les Valseuses marquent une date, toujours 74, toujours cette année, il y a des années phares. Enfin, l'année 74 est une année phare, l'année 84 en est une autre, avec les disparitions qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc voilà, donc ça c'est des années phares, mais les films des années 80 vont continuer à être de très grands films parce que, bizarrement, les nouveaux entrants dans le métier, et notamment les chaînes de télévision, vont faire du bien au cinéma. Elles vont apporter beaucoup d'argent. Certes, la fréquentation des salles baisse hein, quand même, ça il faut le dire. On va passer de 200 millions à 110 ou 120 millions de spectateurs
par an. Entre 82 et 92,
voilà,
hein, à peu près.
Là, il est évident que l'arrivée de Canal+, à l'automne 84, joue un rôle non négligeable. Mais bizarrement, ce qu'il y a, c'est que c'est les décideurs qui ne sont plus les mêmes. Au lieu d'être des producteurs indépendants ou des distributeurs dans les bureaux, ce sont les directeurs financiers, le chéquier, on le connaît, c'est le chéquier qui était tenu par René Bonnel à Canal pendant quasiment 10 ans, et puis celui de tous les autres participants. Et puis après, on va voir arriver des personnages improbables, comme le roi du bâtiment mondial, qui est Francis Bouygues, qui va, à cause de la privatisation de TF1 en 87, qui est la réponse à la privatisation de la 5 et de la 6 par la gauche, la droite privatise TF1, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit Antenne 2, France 2. Et donc là, Francis Bouygues, lui, va devenir un des bailleurs de fonds phénoménal, et il va gagner 5 ou 6 palmes d'or à Cannes, avec Jane Campion, avec des metteurs en scène extraordinaires qui vont faire des films grâce à lui, Kusturica et d'autres.
Oui, via la société CB 2000.
Donc, pour répondre à votre question, la leçon de piano, Kusturica, etc., ce sont de très... je pourrais vous en citer 25 comme ça. Les années 80 restent porteuses d'un cinéma de qualité, malgré le changement total des fondations, même du fonctionnement du cinéma, du financement.
Et puis enfin, ce qu'on voit bien dans votre livre, c'est que vous avez été le témoin de cette époque. On n'a peut-être pas assez dit depuis le début de cette émission, à travers plusieurs anecdotes savoureuses que vous racontez, notamment, vous voyez... au studio de Cinecittà au début des années 80, en 82, 83 je crois, Gérard Depardieu et Robert De Niro. Alors l'un tourne La Lune dans le caniveau, ça se passe pas très bien, l'autre tourne Il était une fois en Amérique, je pense que ça se passe un peu mieux, et ils discutent tous les deux dans les studios de la Cinecittà. Vous parlez aussi d'une scène, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, où Kurosawa essaie de convaincre Toscan de produire son prochain film. Ce sont des scènes donc marquantes d'une
Festival
époque.
Festival de Venise, oui.
Est-ce que d'ailleurs c'est une époque avec le recul que vous regrettez?
Oui, on ne peut que la regretter parce que c'est des images très fortes, des personnages hors du commun et dont on cherche un petit peu vainement la trace aujourd'hui parce que la jeune génération de producteurs n'a pas la même aura que les personnages qui ont fait cette histoire. La preuve, c'est qu'une partie d'entre eux sont... Bon, Toscan est mort, Claude Berry est mort, Pialat n'est plus là, mais il reste quand même encore... les deux frères Seydoux sont toujours aux manettes de la Gaumont et de Pathé, et il reste quand même encore des gens importants dans le cinéma français. Mais ça, c'est la génération qui va céder la place. Parce que, là, je termine le livre sur la transmission, parce qu'on voit bien que cette transmission, elle est en cours, elle a commencé. Jérôme Seydoux est en train de chercher qui va lui succéder à la tête de Pathé. Nicolas Seydoux a passé depuis un certain temps déjà le témoin à sa fille Sidonie, qui a pris les rênes de la Gaumont. Donc tout ça, et Armédia vient d'être complètement chamboulé après le départ de l'un de ses fondateurs, Bertrand Delabé. Donc tout est en train de se remettre. Donc je voulais moi saisir la photographie de ça avec le maximum de scènes que j'avais en tête. Je peux rajouter aussi sur le même festival de Venise où j'ai vu Kurosawa voir Toscan et Nicolas Seydoux avec le manuscrit de Rane qui était en fait d'immenses gravures dessinées de sa main. C'est paru en librairie après. Et j'ai vu les traces de sa tentative de suicide sur son poignet. J'ai vu aussi quasiment les mêmes jours Fellini et Bergman déjeuner à deux tables côte à côte parce que Toscan venait de produire et Fanny et Alexandre et La Naveva de Fellini, ce qui n'était pas rien.
Ce qui n'était pas rien, qui en effet témoigne d'une époque, voilà, et on a envie de se replonger avec gourmandise, revoir les films aussi, parce qu'on a moins parlé des films, et évidemment ce sont les incarnations encore très vivantes de cette époque, et puis bien sûr les coulisses que vous racontez très très bien, donc vraiment précipitez-vous et plongez dans l'histoire secrète du cinéma français. Donc c'est le titre de votre livre, publié aux éditions Robert Laffont, merci beaucoup.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.